DW. Droits et libertés.
Je suis journaliste. Mon métier est journaliste. Ça ne vous étonne pas que je prononce cette phrase ? Je veux dire cette phrase avec cette voix. Non, pourtant, pendant longtemps, ça n'a pas été une évidence qu'une femme puisse exercer cette profession-là. On en reparle dans ce magazine. Et puis en seconde partie, on évoque un autre travail interdit, lui, celui des enfants dans l'agriculture. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour à tous. Traditionnellement, dans de nombreuses sociétés africaines comme en Europe il n'y a pas si longtemps encore, une femme se devait de rester au foyer et vaquer à ses occupations d'épouse et de mère. Mais les temps changent et l'Union africaine travaille à une stratégie qu'elle compte intégrer dans l'agenda 2063. Une stratégie dont le but est de faire progresser l'égalité des sexes sur le continent. Sur le terrain, la disparité entre les taux de scolarisation des garçons et des filles a beau persister, elle s'amenuise déjà. Et de nombreux métiers, dont ceux de la presse, se féminisent petit à petit. Epiphane Tchegounadadja, bonjour.
Bonjour Sandrine Blanchard.
Alors vous êtes intéressée à ce sujet des femmes dans les médias et vous avez même recueilli le témoignage de deux femmes au parcours inspirant.
Et tout à fait, Sandrine, quand vous allumez votre radio pour écouter le journal parler, par exemple, vous avez désormais de fortes chances de tomber sur une voix féminine. Mais même chose à l'heure du journal télévisé. Toutefois, de nombreuses études montrent que les femmes restent souvent plus appréciées à la télévision pour leur physique que pour leur qualité journalistique. À cela s'ajoutent les normes sociales toujours en vigueur dans de nombreux pays africains qui sont loin de faciliter l'accès des femmes au métier de journaliste, qui requiert d'avoir du temps et des horaires flexibles, pas toujours facile à allier avec la vie de famille. C'est ce que souligne ici Juliette Adimé Amoa, une femme de médias au Ghana. Elle dirige actuellement Pen Plus Byte, une structure de formation aux médias en Afrique de l'Ouest.
In a way, women struggle a little bit more with.
Dans un autre registre, les femmes luttent un peu plus dans le métier de journaliste. Pas parce qu'elles n'ont pas les mêmes droits, mais plutôt à cause de la manière dont la société les a chargées de certains rôles. Ainsi, avec le temps, tu dois en tant que femme jouer ton rôle de mère ou de femme mariée, et dans tout cela, tu n'as plus de temps ou d'espace pour le travail. Je dirais donc que c'est pour les femmes un défi.
De plus en plus en Afrique comme ailleurs, les femmes s'affirment. C'est le cas de la journaliste tchadienne Alimé Assadia Ali. Elle a dirigé la radio-télévision nationale tchadienne et occupe actuellement le poste de directrice générale du ministère de l'Information et de la Communication. Quand elle a commencé sa carrière, l'arrivée d'une femme dans le métier n'allait pas de soi.
Ce n'était pas facile, ça a commencé à évoluer un peu ces dernières années. Au départ, c'était très difficile. Parce que comme on n'a pas beaucoup de femmes, vous arrivez dans les rédactions, les rédactions sont fortement masculinisées et les rédacteurs en cherchent généralement des hommes.
Alimé Assadia Ali l'avoue, elle ne rêvait pas non plus d'embrasser cette profession quand elle était petite.
Je suis retrouvée dans le secteur vraiment par pur hasard parce que mon rêve c'est de devenir avocate. Le principal avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas eu une éducation différenciée de celle de mes frères.
Alimé Assadia Ali a dû se battre, donc, mais elle prétend que ça l'a motivée.
Je me suis toujours dit que le défi qu'on a dans le journalisme, c'est d'être femme et d'être professionnelle. Au fil des jours, il fallait surmonter les obstacles, les entraves qui se présentaient. Et ça permet d'évoluer bien que ce n'était pas facile au début.
Selon les estimations du GMMP, Global Media Monitoring Project, qui est la plus grande initiative de plaidoyer sur le changement de la représentation des femmes dans les médias, la présence des femmes africaines dans les métiers de l'information n'a augmenté que de 3%, passant de 19% en 2010 à 22% en 2015. Sandrine Blanchard, disons, la prochaine étude du GMMP sur la question est attendue pour l'année prochaine.
Merci Epiphane. Et maintenant, nous allons retrouver Ariane Janton, employée de la FAO, l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Elle est chargée de programme sur le travail des enfants dans l'agriculture, c'est-à-dire la production agricole, mais aussi l'élevage ou la pêche, par exemple. Quand on parle de travail des enfants, on ne parle pas de n'importe quelle activité d'aide aux parents pour les travaux champêtres, par exemple. Il s'agit de travaux qui ne sont pas adaptés à l'âge des enfants, qui sont susceptibles de les mettre, eux ou leur santé, en danger, ou encore d'avoir un impact négatif sur leur scolarité.
Les enfants peuvent aussi bien travailler dans un contexte de paix que de crise, que ce soit des crises dues à des catastrophes naturelles ou à des conflits violents. Donc, quand on pense à un cas d'un enfant qui se trouve dans un pays d'Afrique, par exemple subsaharienne, dans un milieu rural, une tâche typique dans laquelle une petite fille va être impliquée, c'est par exemple tout ce qui est le transport de l'eau. Donc, ça va être se lever très tôt, étant donné que l'eau n'est pas disponible facilement pour aussi bien le ménage que l'agriculture, l'irrigation. Cette petite fille peut être typiquement envoyée dès l'âge de 5-6 ans, c'est ce qui a été observé dans les statistiques, chercher de l'eau et transporter parfois seule de lourds poids sur des distances assez importantes. Il y a aussi le risque de faire de mauvaises rencontres. Pour un petit garçon, une des tâches typiques parmi tant d'autres, et ça va être un petit garçon qui aide de nuit sur une pirogue à écoper l'eau, qui aide à la pêche locale. Le travail de nuit qualifie automatiquement comme un travail des enfants pour un enfant de moins de 18 ans.
En cas de crise ou de guerre, comment se fait-il que le travail des enfants soit accru?
Par exemple, un enfant qui est habitué à faire du pâturage risque, dans des situations de conflits armés et de conflits entre ethnies, de se retrouver plus confronté à ces violences-là, que ce soit par la présence de forces armées ou parce qu'il y a un conflit à propos du territoire entre population nomade et population sédentaire qui expose l'enfant à des risques accrus.
Et en cas de catastrophe naturelle, j'ai lu dans un rapport de l'année dernière, je crois, de la FAO, au sujet du travail des enfants dans le milieu agricole, que ça pouvait aussi exacerber l'exposition des enfants à un travail dangereux, notamment parce que s'ils sont obligés de se livrer à des tâches champêtres, des travaux champêtres, ils sont aussi plus exposés à des produits chimiques. Après une catastrophe naturelle, quand on veut augmenter le rendement des terres, on a plus tendance à utiliser des intrants, des substances toxiques. Et quand les enfants vont sur les champs, ils y sont exposés aussi. C'est juste?
Oui, le manque de données est assez cruel et il y aurait le besoin de faire vraiment des études et des recueils de données statistiques claires. Mais encore une fois, il s'agit d'observations empiriques lors de la mise en œuvre de projets. Effectivement, à partir du moment où les acteurs les plus vulnérables de la chaîne agricole n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, à obtenir un paiement suffisant pour leur production, cela a un impact négatif sur l'inclusion des enfants dans le travail agricole, parce qu'il n'y a plus assez de moyens pour rémunérer une main-d'œuvre agricole, parce que cette main-d'œuvre agricole-là, adulte, a été déplacée, et donc les petits agriculteurs doivent dépendre des enfants pour arriver à faire la récolte ou d'autres tâches agricoles. Il y a une multitude de cas de figure.
Et étant donné cette complexité, la réponse également qu'on apporte à ces situations est assez complexe. Et je crois que la FAO formule des conseils pour que les programmes qui sont mis en place pour aider les populations et lutter contre le travail des enfants dans le milieu agricole soient adaptés et ne nuisent pas à la population, aux bénéficiaires finalement. Alors quels sont les critères, à quoi est-ce qu'il faut faire attention avant de mettre en place un programme d'aide?
Je pense que vous vous référez à un guide qui a été publié en 2017. C'était un guide sur le travail des enfants dans l'agriculture dans les situations de crise, il me semble, de crise prolongée et crise humanitaire. On sait que ce sont les familles de petits producteurs qui ont été le plus négativement impactées par la crise, qui risquent d'enlever leurs enfants de l'école et de les mettre au travail. Donc, par exemple, lors du choix des bénéficiaires, c'est un des critères qui est inclus. Il faut faire attention à comment déjà les tâches sont distribuées au sein du foyer. Si la femme au sein du foyer était en train déjà d'assumer une énorme proportion des responsabilités, notamment des responsabilités en termes agricoles, il faut faire attention que ce ne soit pas après les enfants qui, du coup, récupèrent une partie de ces tâches pour permettre à ses parents de participer à ces formations-là.
Pour finir aussi, peut-être sur une note un peu plus positive, est-ce qu'il y a des zones, des régions ou des pays en Afrique dans lesquels vous avez enregistré de véritables progrès ces dernières années en matière de travail des enfants en milieu agricole?
Ce qui est possible de dire, c'est que de plus en plus de gouvernements en Afrique, et notamment en Afrique subsaharienne, ont pris conscience de la nécessité de s'attaquer à la question du travail des enfants et notamment du travail des enfants dans l'agriculture. Je peux vous donner l'exemple d'un outil que nous avons développé et qui a eu un énorme succès en Afrique, dans les différentes régions, que ce soit en Afrique francophone, mais aussi en Afrique anglophone et lusophone. C'était un outil qui est un guide visuel intitulé « Protégeons nos enfants des pesticides » qui a été développé et piloté au Mali et qui permet aux différents acteurs agricoles de comprendre tous les moments, toutes les phases au cours desquelles les enfants risquent d'être impactés négativement par les pesticides dangereux, et notamment lorsque les enfants sont impliqués eux-mêmes dans l'application et la pulvérisation de pesticides, et comment y remédier, car cela a effectivement des conséquences durables sur leur santé et leur développement.
Mais merci beaucoup, Ariane Janton.
Merci à vous.
C'est la fin de ce magazine. Merci encore à Epiphane Chegou-Nadadja et Ariane Janton, chargée de programme sur le travail des enfants dans l'agriculture au sein de la FAO. Retrouvez Droits et Libertés sur notre site dw.com/français, à la rubrique Nos Podcasts ou sur notre appli DW. Vous y trouverez aussi un lien vers l'outil de la FAO dont parlait Ariane Janton à l'instant. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.